Chapitre 3. Ce n'était point l'habitude qu'on se permît de déranger Bélop pendant son dîner, ni jamais d'ailleurs. « C'est pour affaires personnelles ?» demanda Paulin. « Oui, monsieur. » Alors il quitta sa chaise. « Je vais le prévenir, dit-il. Asseyez-vous, mademoiselle. » Mais, au lieu de s'asseoir, elle alla poser son paquet dans un coin sur un banc et détachant son chien. « Psit, tu vas rester là et garder mon paquet, dit-elle. Tu comprends ? Reste là !» Le chien remua la queue et se coucha sous le banc. Bientôt, le commis revint. « Si vous voulez me suivre, mademoiselle, je vais vous conduire. » La regardant à la dérobée, il remarqua qu'elle était tremblante, toute pâle, les lèvres décolorées, sous le poids évidemment d'une profonde émotion. En sortant du bureau, ils étaient entrés dans un grand vestibule, haut et large, sans aucun meuble, où, sur le carreau de lierre et de marbre, leurs pas retentissaient comme dans une église. Le commis, qui marchait le premier, s'arrêta devant une porte et, l'ayant ouverte, il s'effaça sur le côté pour laisser passer la jeune fille. Puis, aussitôt, il referma la porte. C'était l'année précédente que Bélox s'était construit cette maison. Lui qui, depuis qu'il s'était établi à Saint-Maclou, avait édifié tant de villas et tant de chalets de tous les styles, depuis le cottage anglais jusqu'au manoir normand, depuis la cabane hollandaise jusqu'au kiosque chinois, n'avait trouvé digne de lui qu'une maison carrée en pierre et en briques. Justement, il venait de s'adjuger, en sa qualité de maire, à lui, entrepreneur, la construction de la nouvelle mairie de Saint-Maclou, et par la même occasion, il s'était adjugé en même temps, lui, propriétaire, à lui, entrepreneur, la construction de sa propre maison. Et tout naturellement, c'étaient les mêmes plans qui avaient servi, comme c'étaient les mêmes matériaux qui avaient été employés. Il n'y avait qu'un seul chantier et tout se faisait en double, l'un pour la mairie, l'autre pour la maison de M. le maire. Que la mairie passât la première lorsqu'il y avait un choix à faire et qu'elle eût le meilleur, cela n'était peut-être pas très exact, mais qu'importait, il n'y avait que les envieux de Bélox ou les ennemis du gouvernement qui pouvaient oser dire que les dépenses de la mairie paieraient en même temps celles de la maison du maire. Le moment venu de meubler cette maison, Bélox avait eu recours au même système. Il fallait 4 fauteuils et 20 chaises pour la salle des mariages. Il commanda 4 fauteuils et 20 chaises en velours vert du même modèle pour son salon. Quant à sa salle à manger, il l'avait meublée, comme la salle des commissions, d'une grande table recouverte d'un drap bleu et de chaises en chêne ciré canné. C'était, sur le bout de cette table, le drap retroussé et remplacé par une toile cirée, qu'il était en train de dîner lorsque Marichette entra dans la salle. Elle s'arrêta à la porte, attendant qu'il lui adressât la parole pour avancer. Reculant un peu sa chaise de la table, il se tourna à demi vers elle et, longuement, de la tête aux pieds, il la regarda sans parler. « Alors, tu es Marichette ?» dit-il enfin. « Oui, mon cousin. »« Que viens-tu faire ici ?» Elle avança de 3 pas en relevant ses yeux qu'elle avait jusque-là tenus baissés. « Je viens parce qu'en mourant, maman m'a dit de venir près de vous. » Et de grosses larmes lui emplirent les yeux, mais elle fit un effort pour les retenir et ne pas les laisser rouler sur ses joues. « Pourquoi ne m'as-tu pas parlé à la gare ?»«
Vous n'avez pas eu le temps de m'entendre. Je pensais que je retrouverais l'occasion de vous approcher, mais vous avez monté en voiture et je suis venue. »«
Et pourquoi faire ?» Elle le regarda sans répondre. « Que veux-tu que je fasse de toi ?» Elle recula d'un pas, comme si ce coup l'avait assommée. Cependant, par un violent effort, elle refoula ses larmes en serrant ses 2 mains l'une contre l'autre pour tâcher de les empêcher de trembler.
« Quand maman a compris qu'elle était perdue sans espoir, elle vous a écrit !»
dit-elle enfin d'une voix si tremblante que, par instant, elle s'étranglait dans sa gorge serrée.
« Oui, et elle a écrit à mon cousin aussi, n'est-ce pas ? » demanda-t-il durement.
« Oui. »
« Que lui disait-elle ? Le sais-tu ? »
« Elle le priait, comme elle vous avait prié, de venir. »
« Et Sylvain n'a pas été à Paris ? » Il a répondu qu'il était bien fâché de ne pas pouvoir faire ce voyage en ce moment. En pleine saison, cela ne lui était pas plus facile que cela ne l'était pour moi. On a ses affaires. Je n'aurais pas sauvé ta mère, je ne suis pas médecin.
C'était pour vous parler de moi que maman vous priait de venir,
dit-elle vivement, comme pour ne pas rester sous l'impression de cette dure explication. Les affaires de ta mère étaient mauvaises, n'est-ce pas? Sais-tu quelle était sa vraie situation?
Quand il y a 15 mois, nous avons perdu papa, maman, vous le savez, a vendu notre magasin de blanc de la rue Saint-Honoré, et elle a, avec ce qui lui revenait, toutes les dettes payées, ouvert une petite boutique de lingerie rue Saint-Roch. C'est de cela que nous avons vécu. Mais si habile qu'elle fût, nous n'avons pas pu faire d'économie. En soignant papa, maman avait gagné sa maladie, ce qui fait qu'elle ne pouvait pas travailler autant qu'elle aurait voulu. Elle est devenue plus malade et, comme elle avait vu papa mourir, elle a compris qu'il fallait qu'elle mourût elle-même.
Arrivée là dans son récit, elle s'arrêta étouffée. Mais après un court moment, elle poursuivit.
C'est alors qu'elle vous écrivit, non pour elle mais pour moi, car l'angoisse de me laisser seule exaspérait son mal. Elle ne voulait pas me dire qu'elle se savait perdue, mais bien souvent, en m'embrassant, en me serrant dans ses bras, elle me disait « Que deviendrais-tu, ma pauvre enfant, si je ne guérissais point ?» Elle ne se calmait un peu qu'en disant « Heureusement, mon cousin Simon est là. Vous savez combien elle vous aimait et quelle foi elle avait en vous. » Quand elle avait dit « mon cousin », elle avait confiance aussi bien que fierté. Cela lui fut un grand chagrin, un désespoir de ne pas vous voir venir.
C'était impossible.
Sans doute, elle devint plus mal, de plus mal en plus mal.
Une fois encore, l'évocation de ses souvenirs lui coupa la parole.
Enfin, elle est morte, dit Belloc.
Elle se cacha le visage entre ses mains et pendant quelques minutes, on entendit que ses sanglots saccadaient. Enfin, elle reprit.
Nous étions à bout de ressources quand maman est morte, mais il nous restait de bons amis du temps où nous étions heureux. Ils ont bien voulu se charger de tout, car moi, vous comprenez, je ne pouvais rien et je ne savais pas. Ils ont aussi arrangé les affaires de maman avec le propriétaire et les autres personnes à qui nous devions, en vendant tout, bien entendu, le mobilier et jusqu'aux vêtements. J'ai conservé seulement la meilleure de mes robes du deuil de papa. Ils voulaient me garder à Paris et m'avaient trouvé une place dans une maison de lingerie. Mais maman m'avait recommandé de ne pas rester à Paris. Elle m'avait fait promettre de venir près de vous. Je suis venue.
Elle se tut et il s'établit un moment de silence qui dura assez longtemps. Elle se tenait debout, au milieu de cette vaste salle sombre, attendant. Et Belloc, immobile sur sa chaise, le front contracté, paraissait réfléchir, lui lançant quelquefois des regards noirs qui la faisaient trembler.
« As-tu dîné ? » demanda-t-il enfin.
« Non, mon cousin. »«
Eh bien, prends une chaise et mets-toi à table. » En même temps, il appela « Divine !»
Une porte s'ouvrit et une servante, en tablier bleu et en bonnet de coton, jeune et assez plaisante malgré un air craintif et opprimé, entra dans la salle à manger par une porte latérale.
« Mets un couvert, dit Belloc, et sers ce qui te reste. »
Elle sortit vivement pour exécuter cet ordre, en femme qui est habituée à l'obéissance, et presque aussitôt, elle rentra portant un plat. Ce qui restait, c'était un ragoût de veau au pois que Divine posa sur la table.
« Va tirer du cidre, dit Belloc à sa servante, et puis tu monteras faire un lit pour cette jeune personne. »
Comme Divine revenait avec la carafe de cidre, un chien gris et noir, passant devant elle, se jeta dans la salle à manger et accourut auprès de Marichette. C'était Psyte.
Comment ? S'écria Belloc. Tu laisses entrer les chiens ici ?
Et il se leva pour le chasser. Le voyant venir et devinant ce qui le menaçait, le chien se blottit dans la robe de sa maîtresse.
Jusque-là, elle n'avait osé rien dire, pas même reconnaître son chien. Mais cet appel à son intervention fit taire ses scrupules et sa crainte.
« C'est Psit !» dit-elle timidement.
« Qu'est-ce que c'est que Psit ?»«
Le chien de papa, notre chien. Maman l'aimait tant. »
« Ah, le chien en est aussi, et tu as payé sa place au chemin de fer. Allons, à la cour, sale bête. Pas de chien ici. Divine, mets-le dehors. Demain, nous verrons à t'en débarrasser. »
Obéissante comme à l'ordinaire, Divine avait pris le chien par la peau du cou et l'avait entraîné sans que Marichette osât bouger ni parler.
« J'ai à sortir ce soir, dit Belloc. Demain, nous causerons. »